Vous écoutez On lit pour vous.
Une société en santé, c'est un jeu d'enfant. Un texte de Stéphanie Gramont, paru le 16 décembre 2025 dans la presse. Notre corps est comme un compte d'épargne. Quand on investit tôt, ça rapporte gros. Saviez-vous que 90% du cerveau se développe avant l'âge de 5 ans? Agir auprès des tout-petits est donc un levier extraordinaire pour favoriser leur santé physique et mentale, leur réussite scolaire et tout le reste de leur parcours de vie. Au bout du compte, l'ensemble de la société en ressort gagnant. Si on veut aider les jeunes à se développer, il n'y a rien de tel que de les faire bouger. Mais le défi est de taille alors que les enfants sont happés par le monde virtuel dès leur tendre enfance. À 2 ans et demi, 43% des jeunes passent au moins 1 heure par jour devant un écran durant la semaine, une proportion qui atteint 65% la fin de semaine, selon une récente étude de l'Institut de la statistique du Québec. Le sport est une pyramide dont la base est en train de s'effriter, illustrait le cofondateur de B210, Dominique Gauthier, lors d'une rencontre éditoriale à la presse. Tout en haut de la pyramide, il y a les athlètes qui brillent aux Jeux olympiques. B210 a fait sa marque en leur offrant l'encadrement nécessaire pour qu'ils montent sur le podium. Aux Jeux de Vancouver, 12 de ces poulains ont obtenu des médailles, moissonnant près de la moitié de la récolte canadienne. Aujourd'hui, l'organisme à but non lucratif veut transposer sa formule gagnante pour solidifier la base de la pyramide en fournissant du soutien pour favoriser le jeu actif chez les 0-5 ans. Au-delà du sport, combattre la sédentarité chez les jeunes est un enjeu de santé publique considérable. Et la prévention est la meilleure façon de désengorger notre système de santé à moindre frais. C'est dans cet esprit que B210 a mis en commun les ressources du milieu philanthropique, scientifique, sportif et éducatif. Il s'est inspiré de la Norvège, qui place le jeu actif au cœur de son programme éducatif. B210 a conçu un programme de formation pour aider les éducateurs à intégrer le jeu actif tout au long de la journée. Amener les jeunes jouer dehors durant 1 heure, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qu'on propose, explique Richard Monette, qui dirige l'initiative Petite enfance de B210. Il faut penser à l'intérieur, à l'extérieur, dans la pluie, dans la neige, dans le soleil, au beau temps, tout le temps. Une photo qu'il a reçue exprime très bien sa philosophie. On y voit une petite fille debout sur une planche d'équilibre. Très bien. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que c'est la période de lecture et que cette petite fille écoute son éducatrice tout en se balançant. Excellent. Le projet pilote de B210 a été déployé dans 200 centres de la petite enfance en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec. Au Québec, 800 éducateurs ont reçu la formation dans le cadre du programme Apprendre par le jeu actif, qui assure ensuite un suivi continu avec des infolettres et des webinaires. Des données probantes ont démontré que le jeu actif au quotidien améliore la concentration, le langage, la résolution de problèmes et la régulation des émotions. Tout cela crée un environnement plus calme, plus propice à l'éducation. Et à la maison, les parents constatent que les enfants ont un meilleur sommeil. Que du bon. Néanmoins, cela exigera un changement de culture dans une société qui rechigne lorsque les jeunes bloquent la rue pour jouer au hockey ou font du bruit en jouant au football dans un parc. Il est tellement plus simple de donner une tablette numérique à un enfant pour qu'il reste tranquille. Mais c'est un piège. Les tout-petits ont besoin du jeu actif qui crée de nouvelles connexions neuronales. C'est une manière naturelle pour l'enfant d'entraîner son cerveau à être capable d'apprendre, de réfléchir et d'interagir avec les autres, explique Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada. La petite enfance est un moment charnière qui a un impact profond pour le reste de la vie. D'ici 5 ans, B210 souhaite donc étendre son programme dans 5000 milieux éducatifs. Il le fait de son propre chef sans rien demander à l'État. Sinon, les enfants auront 8 ans et ce sera trop tard, dit André Desmarais, sourire en coin, en vantant l'efficacité et la rapidité de B210. Mais le président délégué du Conseil de Power Corporation du Canada estime qu'il faut être raisonnable avec les gouvernements. Tout le monde leur demande tout, tout le temps, dit-il. Lui, qui a fondé et financé B210 avec Stephen Bronfman, veut envoyer un message d'espoir et encourager le milieu des affaires à s'impliquer dans l'éducation préscolaire. Si l'on veut que les enfants aient l'avenir qu'ils méritent, il faut que ça bouge. C'était Une société en santé, c'est un jeu d'enfants, un texte de Stéphanie Grandmont, paru le 16 décembre 2025 dans La Presse.
Quand chanter est plus fort que tout, un texte d'Émilie Côté, paru le 23 novembre 2025 dans La Presse. Quand Francine Ducas a rejoint la chorale Les Voix de l'Espoir en 2010, la première question qu'on lui a posée fut un baume. On ne m'a pas demandé quel type de cancer j'avais. Je ne me sentais pas jugée alors que j'étais dans un état vulnérable. On m'a simplement demandé si j'étais soprano ou alto, ce que je ne savais pas. Pour moi, c'était une porte ouverte pour m'exprimer après avoir reçu mon diagnostic. Francine Ducas souffre d'un myélome multiple incurable. Je vis avec depuis presque 18 ans. Je suis relativement chanceuse, dit celle pour qui ce fut une bénédiction de découvrir le centre de bien-être, l'espoir. C'est la vie, Hope and Coke, situé sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Le centre soutient les gens atteints d'un cancer pendant et après, et leurs proches. On m'a accueilli à bras ouverts. Elle chérit le fait que les membres de la chorale puissent échanger, s'aider à passer au travers. On se sent vivant en chantant, dit-elle. C'est extraordinaire, la thérapie du chant. Le bien-être que cela procure après. Concert des fêtes. Les répétitions de la chorale ont lieu tous les lundis de 14h30 à 16h. Celle à laquelle nous avons assisté était particulièrement fébrile puisque c'était la dernière, tout juste avant le concert des fêtes prévu ce dimanche à l'auditorium Habermann de l'Hôpital Général Juif. En introduction, la co-directrice, Michel Ekimi, a rappelé aux membres de sa troupe qu'ils doivent porter des vêtements noirs ou rouges pour le grand jour. Elle a présenté les invités de marque qui les accompagneront sur scène, soit la soprano Marie Beauchesne et le baryton Alain Duguay, qui a chanté pour le chœur de l'Orchestre symphonique de Montréal, OSM. Avant de s'attaquer au programme principal, il ne fallait pas oublier les vocalises, les étirements et les respirations d'usage. On retiendra l'image de voir sa cage thoracique comme un gros violoncelle et le « yé » viscéral clamé en groupe au final. Première chanson, « There's no business like show business », classique d'Irvin Berlin. C'est le début du concert, donc il faut être « in your face », insiste Michel Ekimi. Suivra Nella Fantasia, composée par Ennio Morricone, puis « Le temps du muguet », écrite par Francis Lemarque. Dans cette chanson-là, les mots sont très importants, donc vous devez penser à ce que vous chantez. La musique crée des liens. Solène Des Haies a l'honneur d'assurer le premier solo du concert. Elle habite pratiquement en face du centre L'espoir, c'est la vie, mais c'est sa voisine Jeanne Dansette qui a eu un cancer comme elle, qui lui a appris tout récemment l'existence de la chorale. Je l'entendais jouer de la clarinette, je trouvais ça beau, et on s'est mis à parler de musique. Il faut dire que Solène Des Haies a étudié en chant au Conservatoire de musique de Montréal. La pièce qu'elle interprétera, Panis Angelicus, c'est un beau défi, et j'aurai un petit trac, nous a dit celle qui est professeure suppléante, notamment en musique, et qui interprète à l'occasion des airs populaires dans un restaurant. Si certains ont un bagage musical, d'autres poussent la note pour la première fois. La plupart des gens ici ne savent pas lire la musique, souligne Michel Ekimi. Je suis tellement admirative. Deborah Krauss et Michel Ekimi suscitent tout autant l'admiration de leurs élèves. Ça me remplit le cœur de venir ici, dit la première, qui enregistre des pièces au piano de sorte que les participants puissent répéter à la maison. Michel Ekimi, qui a étudié le chant au Conservatoire de musique de Genève, a fondé la chorale en 2008 avec ses amis Ginette Quintal et Vincenzo Guzzo. C'est depuis la mort de ce dernier qu'elle dirige les chanteurs avec son énergie contagieuse et son sens de l'humour attachant. Je suis moi-même une survivante du cancer. J'en ai eu plusieurs, signale-t-elle, avec le regard rempli de force et d'abnégation des gens qui ont vu leur vie chavirer par un diagnostic. Les bienfaits physiques et cognitifs du chant sont bien connus. C'est thérapeutique, énonce Michel Ekimi. C'est même spirituel, ajoute Deborah Krauss. La plus belle chose au monde. La répétition se poursuivra avec des hymnes dont on ne se lassera jamais. Alléluia de Leonard Cohen, Happy Christmas, War is Over de John Lennon et Yoko Ono et Uma Familia qui définit bien la chorale, dixit Michel Ekimi. Montrer au public que chanter est la plus belle chose au monde, que ça fait du bien aux autres et à l'âme, dira Madame Ekimi aux membres de la chorale avant Sound of Hope, prévu pour la finale. Deborah ajoutera que c'est important de s'écouter les uns les autres. Francine Ducas insiste. Il devrait y avoir plus de centres comme L'espoir, c'est la vie, qui offre aux gens atteints d'un cancer des soins et des activités gratuites, que ce soit du yoga, de l'acupuncture, des ateliers de cuisine et tout simplement des discussions autour d'un café. Sans oublier la chorale. Personne n'est malade en chantant, expose Deborah Krauss. Le jour du spectacle, il se passe quelque chose de grand, promet Michel Ekimi. C'était « Quand chanter est plus fort que tout », un texte d'Émilie Côté, paru le 23 novembre 2025 dans la presse.
À Londres, 3 bébés abandonnés, 8 ans d'enquête et des parents introuvables. Un texte de l'AFP, publié le 14 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. Après des années d'enquête, le mystère reste entier et la police semble prête à jeter l'éponge. Entre 2017 et 2024, 3 nouveau-nés qui se sont avérés être frères et sœurs, ont été abandonnés dans des parcs de Londres et leurs parents restent introuvables. Les nourrissons ont été découverts par des promeneurs respectivement en septembre 2017, janvier 2019 et janvier 2024, l'un enveloppé dans une serviette, les autres dans des sacs, dans des parcs proches d'East Ham, à la périphérie est de Londres, des quartiers à la population ethniquement variée, où coexistent coquettes maisons victoriennes et logements sociaux. La petite Elsa, ainsi prénommée par le personnel de l'hôpital qui l'a recueillie, a été localisée le 18 janvier 2024, moins d'une heure après sa naissance, par un homme qui promenait son chien. Romane, quant à elle, a été trouvée le 31 janvier 2019 dans un autre parc situé moins de 2 kilomètres plus loin. Enveloppée d'une simple couverture juste avant un épisode de neige, ses pleurs ont attiré l'attention des promeneurs. Harry, le premier bébé, avait été découvert le 17 septembre 2017 à 1 kilomètre de l'endroit où l'a été Roman. L'enquête a commencé en 2017 et s'est intensifiée après la découverte du troisième bébé. Mais la police londonienne estime aujourd'hui avoir épuisé toutes les pistes. Elle devrait dire ce mois-ci si elle arrête ses investigations. Un quatrième bébé? Les forces de l'ordre ont frappé aux portes de 400 foyers, passé en revue des centaines d'heures d'images de télésurveillance et offert une récompense de 20 000 livres, environ 23 000 euros, sans résultat. La principale découverte est survenue en juin 2025. Des tests ADN ont alors établi que les trois bébés étaient frères et sœurs. Faute d'avoir retrouvé leurs deux parents, l'enquêteur chargé du dossier, Jamie Hum, disait en mai craindre de prochainement découvrir un quatrième bébé qui n'aurait pas la chance d'Elsa et de ses frères et sœurs d'être retrouvé vivant. Cette affaire rarissime suscite aussi des inquiétudes sur le sort de la mère. En tant que mère, je me demande comment on peut abandonner son enfant, a commenté auprès de l'AFP Charlotte Mallett, une habitante d'East Ham, se souvenant encore du froid qui régnait le jour où elle a appris par la télévision locale la découverte de la petite Romane peu après la naissance de son propre fils. Un tel abandon ne peut être que le résultat d'une situation contrainte, sans autre issue possible, dit-elle. Pour Kevin Brown, un expert en psychologie médico-légale qui a travaillé sur les abandons d'enfants, la mère pourrait être une migrante qui, dans un climat d'hostilité et d'expulsion croissante, préfère éviter tout contact avec les autorités. Le fait qu'elle ait accouché en secret, risquant sa vie autant que celle de ses bébés, pourrait indiquer qu'elle était terrifiée, dit-il à l'AFP. Au début de l'enquête, Jamie Hum pensait que la mère ne voulait pas se manifester. Il considère désormais qu'il est plus probable qu'elle ait été dans l'impossibilité de le faire. Une magnifique petite fille. Dans cette affaire aussi étrange que complexe, en imaginant les circonstances qui mettraient la mère dans une telle situation, on se dit qu'elle est peut-être en danger, souligne Lorraine Scher, une psychologue et experte en santé mentale à l'University College de Londres. L'abandon de bébés est devenu si rare que le gouvernement britannique ne compile plus de statistiques. Les dernières données datent de 2018 et font état de 8 nourrissons abandonnés entre 2008 et 2018 en Angleterre et au pays de Galles, selon la juge chargée du dossier de la petite Elsa. Dans certains pays comme la France, une femme peut accoucher anonymement et immédiatement remettre son bébé à l'adoption. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, qui n'a pas non plus de boîte à bébé, contrairement à certains États américains qui facilitent un abandon anonyme. Harry et Roman, aujourd'hui âgés de 8 et 6 ans, ont été adoptés. À presque 2 ans, Elsa est pour sa part dans une famille d'accueil qui a récemment entamé une procédure d'adoption. C'est une magnifique petite fille, un concentré de rire et d'enthousiasme, selon la juge aux affaires familiales Carol Atkinson, qui suit la procédure. Les prénoms attribués aux enfants juste après leur découverte ont été changés. Les autorités espèrent néanmoins qu'ils maintiendront des liens entre eux en grandissant. Mais, sans aucun document attestant de leur naissance, ils ne pourront jamais retrouver les traces de leur mère. Ils garderont cette souffrance affective toute leur vie, souligne l'expert Kevin Brown. C'était, à Londres, 3 bébés abandonnés, 8 ans d'enquête et des parents introuvables. Un texte de l'AFP, publié le 14 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.
Rebonjour la police. La filière Allo Police, les vedettes du crime au Québec. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 11 novembre 2025 dans la presse. Allo Police a fermé ses portes discrètement en 2004, après un demi-siècle d'existence. À l'époque, cette disparition n'a pas ému grand monde. Quoi qu'on en dise, ce journal fut pourtant une véritable institution du journalisme québécois. Peu de gens se sont intéressés depuis aux archives de cet hebdomadaire consacré au crime, lesquelles avaient été entreposées dans un hangar sur la rive sud. Peu de gens, sauf la recherchiste audiovisuelle Karine Perron, qui les consultait régulièrement pour des raisons professionnelles. C'est pourquoi les dépositaires du fonds, mal outillés pour rentabiliser ce trésor, lui ont proposé d'en faire l'acquisition en 2019, pour une somme que la principale intéressée souhaite garder confidentielle. Le jour avant d'aller les chercher, je me disais « Qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Mais je ne regrette pas, j'ai fait une bonne affaire, lance cette fille d'un ancien policier qui admet avoir toujours eu un intérêt pour le monde interlope. Karine Perron s'est donc retrouvée avec des dizaines de classeurs remplis de journaux, de photos et de négatifs, témoignant de l'impressionnante activité d'Allo Police sur plus de 50 ans. Si l'on calcule, cet hebdomadaire aura ainsi publié quelques 2650 numéros entre 1953 et 2004, voire plus si l'on ajoute les éditions locales et les numéros spéciaux. Déterminée à faire fructifier cette mine d'or, la recherchiste a proposé un partenariat à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Sans succès. C'est alors que les éditions de l'Homme lui ont suggéré d'exploiter le tout sous forme de bouquin. Ce qui est désormais chose faite avec la sortie de la filière Allo Police, les vedettes du crime au Québec, rédigée avec 2 autres passionnés d'enquête criminelle, l'ancienne détective et animatrice à Canal D, Annie Richard, et son collaborateur, Jean-Philippe Rousseau. Le danger par procuration. En plus de 200 pages de textes et de photos, les vedettes du crime au Québec ressuscitent les plus grands gangsters de notre histoire depuis les années 1950. Au total, une douzaine de portraits qui vont du français Jacques Mesrine au Wells Maurice Mom Boucher, en passant par Richard Blass, dit Le Chat, Monica Lamitraille, Proietti, Lucien Rivard ou Victor Lévesque, alias Pretty Boy. Ces criminels donnaient dans le braquage de banques, le trafic de drogue ou la protection dans les bars. Ils ont tué de sang-froid, fait de la prison, se sont évadés, certains à plusieurs reprises. Chacun avait son truc, mais tous ont fasciné le grand public, de leur vivant comme après leur mort. Pourquoi ont-ils marqué l'imaginaire? Demande Karine Perron. Parce que ce qu'ils faisaient n'avait pas de sens. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils étaient prêts à défier n'importe quoi. Ils se permettaient des choses que les gens normaux, sains d'esprit, ne se seraient jamais permises. Donc, je pense qu'à travers eux, les gens pouvaient vivre par procuration quelque chose de fou. Leur personnalité flamboyante explique aussi qu'ils soient restés dans les mémoires. Ils aimaient le glamour, les Kodak, l'attention médiatique. Or, Allopolis répondait parfaitement à leurs besoins de notoriété. En couvrant systématiquement leurs méfaits, l'hebdo a contribué à faire d'eux de véritables vedettes du crime, souriantes en apparence, mais brutales dans les faits. Mesrine était plus narcissique, plus mégalo, illustre Annie Richard. Richard Blass voulait passer à l'histoire pour son niveau de violence inouïe, mais il voulait que les gens l'applaudissent. Le dernier à avoir été comme ça, c'est Mom Boucher. C'est vraiment le dernier qui a été aussi violent, mais en même temps, flamboyant. Madame Richard rappelle au passage que Richard Blass et Mom Boucher allaient jusqu'à envoyer des photos d'eux au bureau d'Allopolis, question d'assurer leur propre suivi publicitaire. Très lu, mais mal vu. Dans les bonnes années, Allopolis pouvait se vendre jusqu'à 150 000 exemplaires par semaine, affirme Karine Perron. Belle revanche pour l'hebdo trash qui avait été conspué par l'Église lors de sa création en 1953. Le clergé n'était pas d'accord parce que ce n'était pas possible que ces ouailles tuent du monde, résume Madame Perron. Mais selon elle, cette publicité négative a aussi contribué au succès du journal. Plus il y avait de la controverse, plus on voulait lire. Victime des réseaux sociaux et d'un accès de plus en plus compliqué à l'information policière, Allopolis a finalement tiré sa révérence en 2004. Personne n'est allé à son enterrement. Mais avec du recul, Karine Perron croit que la revue a été injustement méprisée et sous-estimée. Malgré sa réputation de feuille de chou attribuable à sa nature sensationnaliste, Allopolis misait sur un vrai travail de terrain. Ses journalistes, dont le fameux Claude Poirier, qui signe la préface, se rendaient systématiquement sur les scènes de crime et arrivaient souvent en même temps que les policiers. Ils obtenaient des entrevues exclusives auprès de bandits notoires, trouvaient des scoops, des faits divers peut-être, mais couverts avec assiduité et un sens morbide du détail. Ce que confirme d'ailleurs Bernard Tétrault, son ancien rédacteur en chef. C'est pour sa rigueur qu'Allopolis a été, pendant 51 ans, la bible judiciaire des policiers, des juges, des avocats, des lecteurs, et oui, de bon nombre de criminels, écrit-il en intro du livre. À noter, Les vedettes du crime au Québec est le premier tome d'une série de 5 prévue par Karine Perron et son équipe. La recherchiste devenue archiviste prévoit un deuxième volume portant sur les grandes tragédies du Québec, accident de Québécaire, Ordre du Temple solaire, puis les suivants sur les organisations criminelles. Frères Dubois, Mafia montréalaise, l'appareil judiciaire, avocat vedette, département médico-légal, police, et enfin, les faits divers les plus insolites. Pas de doute, les archives d'Allopolis ont encore beaucoup à offrir. C'était Rebonjour la police. La filière Allopolis, les vedettes du crime au Québec. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 11 novembre 2025 dans la presse.